s'occupe de l'accrochage de l'exposition de son œuvre à Vaux-sur-Seine. Donc, bon, mais là, je crois qu'on va recommencer. Est-ce que M. Christian Dougou voudrait nous conduire dans la prière ?
Seigneur, nous voulons te remercier pour la joie que tu nous donnes d'être ensemble. Et merci parce que tu permets que nous puissions étudier ta parole en toute tranquillité et que cela nous reste présent à l'esprit parce que malheureusement dans ce monde c'est une minorité qui puisse étudier ta parole dans la paix. Nous sachions en tirer profit pour ta gloire. Amen.
Amen. Ce qui est à notre programme aujourd'hui, vous le savez, vous qui faites partie du groupe numéro 3 de manière habituelle, c'est une discussion, un entretien sur l'exposé de la dernière fois. Et si le temps le permet, le début d'un exposé sur l'état intermédiaire, un pourcentage plus ou moins considérable de cet exposé. Je pense qu'il sera utile, parce que peut-être quelques-uns se sont joints à nous qui n'étaient pas la dernière fois, que je répète très brièvement quelle a été la thèse que mon exposé a défendue il y a un mois. Et puis auparavant, j'aimerais ajouter simplement un tout petit post-scriptum, post-locutum, à ce qui a été le message là-haut. Vous signalez que saint Augustin a une interprétation admirable du dos de Dieu, du dos de l'Éternel, en Exode 33, qui je crois est une interprétation juste, confirmée par Jean 1, si on dit bien Jean 1. Le dos de Dieu, en fait, c'est Jésus-Christ. Le dos de Dieu dans cette révélation à Moïse, d'Exode 33, ça signifie au fond, Dieu, après qu'il est passé, après qu'il est intervenu et qu'il ait usé de sa grâce, nous ne pouvons voir Dieu de face, c'est-à-dire en prenant l'initiative et en se présentant en quelque sorte par lui-même devant Dieu. Mais il est possible de connaître Dieu après qu'il soit lui-même intervenu, qu'il est passé, par derrière donc. Or, quelle est cette intervention de Dieu ? À l'arrière de laquelle nous nous situons, c'est Jésus-Christ. Voir Dieu après qu'il est passé, et ainsi le voir et vivre, c'est le voir en Jésus-Christ. Alors saint Augustin l'a dit très clairement en commentant ce chapitre, et je crois que ça correspond à Jean 1, que Jean 1 fait une allusion dans les versets 14 à 18 au passage d'Exode 33 qui est en cause, et nous montre quel est le sens en disant « la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ ». La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité qui sont déjà représentées symboliquement dans ce passage d'Exode 33 sont venues par Jésus-Christ. Bon, alors je voulais faire ce petit appendice parce que ça me paraît être de très beau, de très, très pénétrant et très riche. Mais maintenant je rappelle ce qu'au sujet du mot « éternel » dans le Nouveau Testament, car c'est surtout pour le Nouveau Testament qu'il y a débat, du mot « aionios » dans le grec du Nouveau Testament, nous avons dit la dernière fois. Il y a deux manières d'essayer d'écarter le sens habituel, c'est de dire « il ne signifie que séculaire, qui dure un âge, sans doute assez long, mais un âge seulement, c'est donc une durée limitée », ou bien c'est de dire « il signifie intemporel, parce que l'éternité de Dieu n'a rien à voir avec notre temps, c'est un pur présent sans succession, il n'a même pas de caractère de durée, pourraient dire certains. Donc lorsqu'il est question d'éternel, à propos de la béatitude éternelle et surtout du châtiment éternel, ça signifie un châtiment définitif, quelque chose qui est hors de notre temps, et il ne faut pas l'imaginer comme une durée de souffrance ou de béatitude illimitée et infinie. Alors nous avons critiqué ces deux thèses la dernière fois, en montrant qu'elles ne correspondent pas au sens du mot employé, d'après toutes les recherches qu'on peut faire dans les textes grecs de l'époque, et que résument les dictionnaires les plus réputés, et en montrant qu'il n'y a pas non plus accord avec l'usage biblique de ces termes, que beaucoup d'expressions ou de versets perdent de leur sens, si on y glisse soit l'une soit l'autre de ces deux façons de concevoir les choses incompatibles entre elles. Et nous avons souligné qu'il n'y a pas de raison biblique de dire ce que beaucoup de gens disent comme ça, un peu facilement. Oh, l'éternité de Dieu n'a rien à voir avec notre temps. Pour Dieu, le temps n'existe pas. L'éternité ne connaît pas la succession de l'avant et de l'après. Et ces choses-là, nous avons dit, sont dites sur des bases philosophiques, mais dans la Bible elle-même, elles n'ont pas de soutien bien distinct. Nous avons examiné plusieurs versets qui sont parfois allégués, et nous avons vu qu'ils ne peuvent pas porter cette thèse. Nous avons reconnu qu'il y a un mystère de l'éternité divine, mais ce mystère ne doit pas être durci ou utilisé pour aboutir à la négation des liens positifs qu'il peut y avoir entre l'éternité et le temps. Ils ne doivent pas aboutir à une négation du caractère successif, du caractère de durée de l'éternité divine. Il faut plutôt concevoir ce mystère selon l'analogie du mystère de la Trinité, de même que Dieu est un et trois, dans des sens qui se distinguent, mais dont nous ne voyons pas exactement comment ils se combinent. Nous ne maîtrisons pas cela, c'est un mystère. Ce n'est pas une contradiction, mais nous ne maîtrisons pas la chose. De même, Dieu demeure le même, il domine entièrement la succession de l'avant, et du maintenant et de l'après, de l'avenir. Il la domine entièrement, elle n'est pas une loi qui s'impose à lui de l'extérieur, elle est fondée sur ses propres actes. Mais en même temps, tout en la dominant, tout en demeurant l'immuable, celui en qui il n'y a pas ombre de variation, Dieu n'est pas parfait d'une perfection statique. Ce n'est pas comme une idée qui demeure la même parce qu'il n'y a en elle aucune vie. Il y a en Dieu réalité de la succession. Avant et après, ça compte pour lui. Il est capable d'agir, de poser des actes successifs. Il y a une diversité de la vie divine en même temps qu'une unité. De même qu'il y a unité et pluralité des personnes, il y a unité et diversité successive de la vie de Dieu. C'est là le mystère de son éternité. Et nous y avons part, nous créatures, parce que nous sommes à son image, d'une manière bien sûr faible et entièrement dépendante de lui, mais d'une manière quand même qui nous aide à comprendre. Il a mis l'éternité dans le cœur des hommes, dit l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. Nous avons, dans notre expérience d'homme doué d'esprit, comme une image. Nous vivons dans la succession temporelle, mais dans la mémoire, dans la conscience même du temps, dans les projets d'avenir, nous nous élevons quelque peu au-dessus de cette succession, nous la synthétisons, pas totalement comme Dieu le fait, mais partiellement, mais nous la synthétisons. Et ainsi, nous pouvons saisir quelque chose de ce que peut signifier l'éternité divine. Voilà ce que nous avons dit la fois dernière, mais nous n'avons pas eu le temps de nous entretenir à ce sujet, d'examiner les objections, etc. Et c'est ce que nous voulons donc faire d'abord aujourd'hui. Tout le monde donc est bien au clair sur le point que nous avons atteint.
Je vais demander, est-ce qu'on peut comparer l'éternité à un peu l'infini mathématique? C'est-à-dire, il y a une succession, mais en fait, on peut jamais atteindre l'éternité. Il n'y a pas de deux.
Oui. J'avoue que je suis réticent devant des comparaisons trop rapides avec l'infini mathématique, parce que dire l'éternité de Dieu infinie au sens banal, elle n'a pas de limite, nous ne pouvons pas dire ça s'arrêtera à un moment donné, ça bien sûr c'est indispensable. L'idée qu'il n'y a pas de limite, elle est exprimée parfois dans la Bible, sous cette forme simple, sans il n'y a pas de limite. Mais la notion mathématique d'infini est l'objet d'une construction intellectuelle pleine de paradoxes, beaucoup plus raffinée, et j'ai un peu peur de m'emberlificoter dans ces paradoxes, d'introduire dans la pensée biblique quelque chose qui ne s'y trouve pas nécessairement, en utilisant ce qui a été développé par les mathématiciens directement dans la recherche théologique. Il n'y a pas doute que Pascal a beaucoup pensé en termes d'application à la réflexion chrétienne de l'idée mathématique d'infini. C'est lui qui l'avait découverte pratiquement avec ses éléments paradoxaux, et donc il a eu une très grande joie à concevoir Dieu à la manière de l'infini, et ses rapports au fini, selon l'analogie du rapport mathématique entre fini et infini. C'est très suggestif, c'est pas spécialement pour l'éternité, hein, mais de manière générale, il a conçu Dieu comme, d'abord comme l'infini, alors que d'autres penseurs l'ont conçu d'abord comme l'absolu. Il y a déjà une nuance, c'est déjà différent, entre l'absolu, d'autres comme l'être. Selon que vous choisissez cette optique, cela vous donne des directions en théologie différentes et des conclusions peuvent finalement en résulter qui sont aussi différentes et même opposées. Alors Pascal est un exemple d'un penseur qui a beaucoup utilisé la notion d'infini, mais je ne dirais pas qu'il soit retombé exactement sur les grandes lignes de la doctrine biblique. Il a dit des choses passionnantes et bienfaisantes pour nous, mais il a aussi dit des choses que nous ne pouvons pas tout à fait admettre. Et je crois que cet usage de la catégorie d'infini mathématique a pu lui jouer quelques mauvais tours. Donc voyez comme je suis un petit peu réticent. Je serais mathématicien, je serais à l'aise dans la manipulation de la notion en cause, peut-être que j'oserais davantage, je m'avancerais sur ce terrain avec moins d'hésitation. Mais comme je ne le suis pas...
Par moment, une précision, en ce sens que, à partir des deux stratégies tournant dans du sens de Ionios, pour la première, vous avez donné quelques noms, entre Marquis, Douillère, etc., vous n'avez pas donné pour le second. Alors, est-ce qu'il y a des noms marquants?
Oui. Alors, retourne dans le sujet.
Je dirais que...
Illustration, oui, chaque fois, des deux thèses.
Oui, oui. Il y a la tendance à affirmer l'éternité sans succession, elle a été à peu près générale dans la théologie traditionnelle, mais seulement sans qu'on en tire les conséquences. Disons que saint Augustin l'a dit, Luther pourrait s'être cité aussi, il a une idée d'éternité très intemporelle, et nous aurons peut-être à en reparler à propos de l'état intermédiaire, parce que chez lui, ça a eu une conséquence pour l'état intermédiaire. Il était très platonicienne l'éternité, mais ça a été généralement la thèse qu'ont formulé les docteurs orthodoxes, je dirais un Hodge par exemple, ou un Bavinck comme théologien réformé, Hermann Bavinck, important théologien réformé de Hollande au début du siècle, mais sans tirer les conséquences qui me semblent dangereuses. Karl Barth, dont j'ai parlé la dernière fois, est un homme qui a été encore plus rusé que les autres, mais plus perspicace peut-être aussi, en ce sens qu'il a adopté cette façon de concevoir l'éternité, et en a tiré les conséquences, à mon avis, désastreuses que j'ai indiquées la dernière fois, mais cependant, il a été assez lucide pour ne pas formuler cette conception dans les termes les plus extrêmes. En un sens, il a été moins loin que ses docteurs de l'orthodoxie, qui n'ont pas tiré les conséquences, car Karl Barth a reconnu qu'il fallait parler d'une distinction de l'avant et de l'après, même pour Dieu, même pour l'éternité de Dieu. Donc, vous voyez, il a été plus près de la thèse que je défends. Seulement, c'est là qu'il a ruiné tout de cette concession, en quelque sorte, il a dit, mais sans succession. Avant et après, mais comme simultanément. Alors, à mon avis, on vide de leur sens ces mots-là, avant et après, si on refuse l'idée qu'ils se succèdent. Mais Barth, vous voyez, il a été plus malin, je dirais, que les théologiens de l'orthodoxie, qu'en général, je veux suivre, puisqu'il a vu qu'on ne pouvait pas dire simplement que l'avant et l'après, cette distinction est abolie pour Dieu, ne compte pas pour Dieu. Non, il a voulu la préserver, mais tout en la préservant, il l'a vidée de son importance, en enlevant quand même l'idée de succession. Et alors, ayant fait cela, il a été conséquent, en disant, s'il n'y a pas de succession pour Dieu, finalement, il ne peut y avoir fondamentalement qu'un seul acte de Dieu. Il ne peut pas y en avoir plusieurs. Donc, finalement, la création et la réconciliation en Jésus-Christ doivent être compris comme une. On les distingue parce que l'homme ne peut percevoir ces choses qu'en distinguant. Mais c'est une sorte d'illusion d'optique de l'homme, et il faut que notre pensée tende à comprendre la création comme ayant en son cœur la réconciliation déjà. Non pas comme une étape première, puis ensuite il y a le drame du péché, et puis la réconciliation comme une étape seconde, bien distincte, mais la création comme ayant comme essence en quelque sorte la réconciliation. Il utilise l'expression de fondement interne de la réconciliation, disons la réconciliation comme fondement interne de la création même. Alors ça veut dire que le mal, le péché, ne peut plus s'insérer comme l'étape numéro 2 dans ce schéma 1, 2, 3, création, chute, rédemption, comme une étape séparée. Ça veut dire qu'il faut que le mal soit un aspect de l'unique événement ou acte. Ce qui fait que le statut du mal chez Barthes est radicalement changé. Le mal surgit pour lui dès la création, dans la création. Ce n'est pas une étape qui vient après. Le mal surgit du fait même que Dieu dit oui à la création, alors du coup il y a le mal. Parce que s'il dit oui, ça veut dire qu'il dit non. S'il dit non, ça produit le négatif. Enfin, c'est un tour de passe-passe. Mais c'est comme ça qu'il présente les choses. Mais comme la création elle-même dépend de la réconciliation, ce que je voulais expliquer, le fondement interne, c'est la réconciliation. Finalement, le mal, il est fondé sur l'événement de la réconciliation. Au lieu que l'on dise qu'il y a le mal, et puis Dieu vient pour réconcilier, réparer le mal, c'est Barthes part de l'événement de la réparation, et dit voilà le fondement du mal. Il dit dans un passage tout à fait ébouriffant que qu'Adam était pécheur, cela est vrai parce que d'abord Jésus-Christ a été traité comme le pécheur. Donc il renverse l'ordre qui paraît l'ordre évident pour dire tout un chacun. Mais il y est contraint par sa notion d'éternité. C'est ça ce qu'il faut voir. Moi j'admire en un sens la conséquence qu'il a mise dans cette pensée. Parce qu'effectivement, si il n'y a qu'un seul acte de Dieu, il ne peut pas y avoir plusieurs actes parce qu'il n'y a pas de succession. Si l'éternité n'est pas successive, il ne peut pas y avoir plusieurs actes mais un seul acte. Alors il faut prendre l'acte central de la réconciliation et puis essayer de tout enfermer dans ce seul acte. On ne peut pas avoir une vraie diversité. Donc je trouve que Barthes là a raisonné juste à partir de prémices fausses. Et que de ce fait, il nous alerte et il nous montre que les prémices qu'ont acceptées beaucoup de docteurs évangéliques étaient fausses, qui n'ont pas saisi la subtilité du mystère, l'unité de la vie divine. Oui, il faut l'affirmer, mais aussi la diversité. Le fait que Dieu est capable de poser plusieurs actes. Alors, il y a donc Barthes. Mais alors, il y a des hommes qui ont été influencés, plus ou moins, par Barthes, et qui sont beaucoup plus proches des positions évangéliques. Je me rappelle qu'on citait ainsi le pasteur Bourguet. Le pasteur Bourguet qui a été président du Conseil national de l'Église réformée de France. Si j'ai bien compris, comme c'est enregistré, j'ajoute cette clause de précaution. Si j'ai bien compris, si je n'ai pas déformé le renseignement que j'ai entendu, il avait enseigné un certain temps, encore relativement jeune pasteur, à l'Institut de Nogent. Mais c'est à propos du châtiment éternel que son désaccord avec la confession de foi de Nogent telle qu'elle est comprise par la direction s'est révélé. Et il est apparu qu'il interprétait châtiment éternel dans le sens châtiment définitif, une sorte de châtiment intemporel qu'il refusait à cette éternité, la durée successive, et que c'est sans doute sous une influence plus ou moins partienne qu'il le faisait. Alors voilà un nom d'un homme relativement proche que je peux citer.
Mais Dieu aurait tout créé globalement, alors on ne peut vraiment pas se servir de ses pauvres mots. Alors, son plan aurait été créé en une fois, si j'ose dire.
Vous voulez dire dans la pensée.
Il n'y a pas la chute, il n'y a pas la résurrection.
Barthes, n'est-ce pas, a lutté toute sa vie, je crois que ce qu'il faut dire, vous posez une question essentiellement sur la pensée barthienne, n'est-ce pas, là, pour Barthes, essentiellement, il y a débat, tension, mais effort pour penser de la manière la plus unitaire. Il part d'une donnée biblique, bien qu'il ne trouve pas dans la Bible une autorité absolue, qu'il ne croit pas que c'est la parole de Dieu même constamment, devant laquelle nous devons nous courber et que nous devons accueillir simplement, malgré cela, il donnait beaucoup de poids à la Bible. Il s'efforçait d'être aussi biblique qu'il le pouvait. Donc, il prend les données bibliques avec sa diversité, avec les différents actes de Dieu qui sont racontés dans leur ordre. Et puis, il essaye d'assumer aussi toute la tradition. Il s'est voulu homme d'église. Après les premières années où il avait agi un peu en individu, il y a eu une réaction dans sa propre vie. Il s'est dit, non, la dogmatique, la théologie, c'est une tâche d'église. C'est pas un penseur isolé. Et il a donc intitulé sa dogmatique en allemand, dogmatique ecclésiastique. Il a voulu marquer que c'était une dogmatique de l'Église, qui s'exprimait par sa voix. Alors il a fait un effort pour assumer toute la tradition, où toutes les œuvres de Dieu sont considérées comme distinctes, liées mais distinctes. Et alors, à partir de là, avec sa notion d'éternité et sa volonté, à cause de ça, de tout ramasser dans l'acte de la réconciliation, il a lutté, essayant de comprendre chaque fois la diversité d'une manière une. À mon avis, en forçant les choses. En particulier à propos du mal, cela apparaît nettement. Mais il n'a pas pu effacer toute diversité. Et alors, il a essayé de se battre comme il pouvait. Une de ses manières, vous voyez de nouveau sa subtilité, et aussi pour le profit que j'ai pu tirer, moi, de ses efforts, tout en jugeant qu'ils ont été infructueux, il fait une comparaison avec la doctrine de la Trinité, lui aussi. Et en disant, les trois actes de Dieu sont un acte. Alors, les trois actes de Dieu, c'est la création, la réconciliation et la rédemption. Il appelle rédemption ce qui est annoncé pour le futur encore, au retour de Jésus-Christ, mais il appelle ça la rédemption, lui. Les trois actes de Dieu sont comme les trois manières d'être de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Ils sont un seul, finalement. Nous les percevons comme trois, Dieu se révèle cette manière triple, mais nous devons les concevoir comme un. Alors je crois que c'est erroné. Moi je dis que j'ai tiré profit de cette pensée en disant oui, il y a dans l'unité, la diversité de l'éternité divine, quelque chose qui ressemble au mystère trinitaire. Mais je dis ça pour la vie divine. Je ne dis pas ça pour les événements de l'histoire de la créature, qui est fondée par Dieu, mais qui est distincte de Dieu. Et entre les trois événements, de la création, de la chute et de la rédemption, ou de la réconciliation-rédemption, je ne dis pas du tout qu'il y ait l'unité qu'il y a entre les personnes de la Trinité. La diversité réelle en Dieu fonde une diversité dans les événements de l'histoire de la créature, mais ces événements, eux, sont carrément séparés. Et surtout, quand surgit le mal, qui n'est pas en Dieu, il y a une déchirure qu'on ne peut pas du tout ramasser dans l'unité. Or, Barthes a essayé de concevoir cette diversité dans l'histoire du monde, de la créature, à la manière de l'unité divine même. Et je crois qu'il a ainsi forcé les choses. Et ça l'a conduit à des oppositions marquées avec la Bible à propos du mal, donc j'en ai parlé déjà tout à l'heure. Mais je peux rajouter une chose, pour les puissances du mal, dont parle M. Adjelao, à propos de Satan, une position où Barthes est obligé de dire carrément qu'il est en désaccord avec certains textes bibliques. Ça, il est obligé. Barthes refuse de considérer que Satan et les démons aient été créés. Il refuse l'idée de création de ces êtres et de chute de ces êtres.
Alors, comment elle explique ça?
Alors il affirme à la fois qu'ils sont réels et qu'ils n'existent pas.
Ah oui.
Parce que seules les créatures existent. L'existence vient de l'acte créateur de Dieu. Alors, il interprète comme une sorte de figure, mais il dit qu'il faut les prendre très au sérieux, c'est réel. Mais ils n'existent pas, mais ils n'ont pas été créés. Mais ça joue avec cette doctrine du mal que je vous ai présentée.
Celui-ci sait que c'est blanc et noir en même temps.
Oui, mais alors justement, sa pensée était dialectique. Il vous aurait aussi répondu, mais oui, c'est l'infirmité de la parole humaine qui ne peut pas dire le mystère de la parole de Dieu sans se briser, sans allier l'oubli et le non. C'est là la marque même de notre bassesse devant le Seigneur. Donc, vous voyez, je ne s'en souciez pas.
Je vous pose une question sur du mal.
Oui.
À votre avis, le mal existait-il sur la terre avant la création d'Adam?
Je ne pense pas. Je m'appuie tout.
J'ai lu votre livre.
Oui, oui, oui.
J'ai besoin de le relire pour le méditer parce que c'est assez difficile. Mais ça semble un peu en contradiction avec la paléontologie et les découvertes. Pour vous, enfin, quand les animaux sentent des corps, ce n'est pas du corps du mal. Je suis un petit peu réticent. Sous l'économie milléniale, les animaux ne s'entrevoiront pas, puisque le lion et l'agneau traiteront ensemble, un petit enfant les conduira. Donc, le fait que les animaux qui ont existé il y a peut-être des millions d'années s'entrevoiraient, signifie, à mon humble avis, que le mal existait. Je ne sais pas combien de temps il y a. Peut-être des choses.
Oui, non, votre question est une question très, très intéressante et que d'autres aussi discutent. D'ailleurs, même au Moyen-Âge, comme je l'indique dans une note du livre, il y a eu des débats entre théologiens scolastiques sur ce problème. Certaines connexions de ce problème. Je m'appuie surtout sur Romains 5. C'est par un homme que la mort est entrée dans le monde et il fait que tous ont péché, etc. Que le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. Donc il me semble que si on ne donne pas au mot monde le sens très étroit de société humaine, quand même le mot monde suggère quelque chose de plus ample, la terre remise à l'homme devait être exempte de ce mal, de ce qui peut être dénoncé comme mal. Il y a aussi Romains 8, tel que je le comprends, la terre, la création toute entière, sous les douleurs de l'enfantement, elle a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Ce à cause de celui qui l'y a soumise me semble un écho de Genèse 3. À cause de toi, le sol sera maudit. Le à cause de toi est très marqué dans Genèse 3, et à quoi Paul peut-il faire allusion, sinon à ce à cause de là? Donc de nouveau, l'élément de mal qui est présent dans le cosmos, et le cosmos distinct de la simple société des hommes, semble rattaché par Romains 8 à la chute de l'homme. L'homme ayant été établi
dans le monde astral,
en tout cas, il est question là de la création tout entière dans Romains 8. Vous avez ce passage-là. Vous avez aussi les données du livre de Job que je cite, qui pour moi sont un élément important. Dieu décrit là comme son œuvre, et non pas comme une défiguration de son œuvre, mais comme son œuvre, en la faisant admirer à Job, des animaux particulièrement féroces et terrifiants. Il les décrit comme des merveilles qui doivent fermer la bouche du contestateur. C'est ce qui me fait dire, Dieu là ne considère pas que ce soit l'ennemi qui a fait ça, quand il décrit ses animaux, mais vraiment ce que ses mains ont façonné. Alors, comment comprendre cette présence des faits que vous évoquez? Il me semble que j'ai au moins une pensée qui m'aide quand je me dis, reculons, où je peux tracer la limite? Bon, quand un lion mange un agneau, oui, le petit agneau, il m'émeut, il me touche, j'aime bien, j'aime le caresser, etc. Quand le lion mange l'agneau, ça me fait de la peine, j'ai l'impression que c'est un mal. Mais si je descends, quand c'est une sauterelle qui mange une fourmi, est-ce que c'est pour moi un tel drame? C'est déjà beaucoup plus difficile à imaginer. Prétendre que c'est un drame, ça me paraît. Et alors, vous descendez encore un cran, vous voyez, vers le plus petit, et là, du coup, vous dites non, ce serait ridicule de penser que quand les microbes s'entre-dévorent, ce qui, dans l'économie de la vie, telle que nous l'observons, elle est magnifique, c'est un prodige d'ingéniosité, de l'équilibre, etc. Quand les microbes s'entre-dévorent, on ne peut pas dire que ce soit un mal. Vous voyez. Alors, où m'arrêter? Il me semble que je ne vois qu'une ligne bien nette à partir de laquelle je dois dire là, la mort est un mal, c'est l'humanité.
L'humanité. C'est sûr que ce sont des conséquences au point apologétique. Bon, vous parlez à des gens de la rue ou ailleurs, vous dites que Dieu est amour, mais en réalité c'est un charnier de la nature.
Mais,
il y a quelques objections à la réelle.
Oui, oui.
Mais l'amour a existé bien avant l'homme.
Oui, justement, mais alors cette mort.
Il a été créé quand même immortel.
Oui, mais alors cette mort existante avant l'homme est-elle un mal? C'est ça le problème.
Et comment
est-ce qu'il existait avant l'homme? Ah bien, je pense que il faut tout nier alors de ce que les recherches produisent. Il faut imaginer qu'il y a eu, il y a eu une transformation absolument radicale. Alors certains le font. Les tenants de la géologie diluvienne ou du catastrophisme dont tu discutes dans l'appendice de l'appendice A de mon livre, ils pensent pouvoir reconstruire un scénario enseigné dans tous les manuels. Mais moi, j'ai examiné ces choses, j'ai lu plusieurs bouquins, j'ai finalement conclu que ça ne tenait pas suffisamment. Ce n'était pas assez solide. Ce scénario ne me semble pas pouvoir être justifié. Et alors, je dis, avec l'homme, il y a une frontière nette. La mort qui est condamnée dans l'Écriture, c'est toujours la mort de la création, de la créature en image de Dieu. C'est de ce fait-là que la mort est jugée scandaleuse. La mort de l'animal n'est pas jugée scandaleuse pour elle-même dans aucun texte.
Non plus que ses souffrances.
Et non plus même que ses souffrances, avec, alors, ce petit correctif, qui va nous aider, je crois, à comprendre le langage des aïons, que vous avez évoqué. Pour les animaux les plus proches de l'homme, dans sa vie concrète, et c'est Dieu qui a préparé cela aussi, il y a inéluctablement, je dirais, projection de nos sentiments, de ce qui concerne l'homme. Nous ne pouvons pas nous empêcher, lorsqu'il s'agit des animaux qui ont à peu près la même taille que nous et qui partagent notre vie, de projeter ce qui est vrai pour nous sur eux. C'est un mécanisme psychologique qui me semble inévitable. Et de ce fait, d'une part, il y a condamnation d'une certaine cruauté à l'égard des animaux. Bien que la souffrance animale ne soit pas jugée comme scandaleuse dans le monde, globalement, il y a quand même de cette disposition sur le bœuf qui foule le grain, qui ne doit pas être emmuselé, cette cruauté de ce mesquine, du propriétaire qui empêcherait l'animal là de faire ce qui est selon son instinct et qui soutiendrait sa vie, bien que pour lui, ce qui est significatif, Dieu ne se soucie pas des bœufs, il dit ça à titre pédagogique, je crois que nous pouvons comprendre que c'est quand même une pédagogie qui concerne aussi les bœufs. L'homme est ainsi fait, à cause de cette projection psychologique des sentiments humains sur les animaux de notre entourage immédiat, que s'il est cruel avec les animaux, il dérègle quelque chose dans ses sentiments à lui. Il y aura inéluctablement, à cause de ce lien qui se crée, une perversion dans les sentiments humains s'il y a du sadisme à l'égard des animaux. D'ailleurs, on parlera de sadisme justement pour ça. Donc, ça représente un certain correctif à cause de cette projection. Et, pour ma part, je comprends que Ésaïe 11, pour parler d'une paix entre les hommes, utilise l'image de la réconciliation des animaux qui sont des ennemis naturels, justement à cause de ce mécanisme de projection. Parce que nous pouvons comprendre par là que ce sera une paix parfaite.
Alors, on pourrait dire que la Bible dit la mort est entrée dans le monde. Quand on dit la mort est entrée dans le monde à cause d'Adam, oui, c'est la mort humaine.
Oui, 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 oui. C'est pas la mort animale. Oui, oui. C'est la mort qui est un mal, au fond, je dirais. La mort qui mérite d'être dénoncée, la mort qui est liée au péché, mais il n'y a pas de vraie notion de mort avant qu'on atteigne le niveau de l'homme parmi les créatures. Ce sont des synthèses biologiques qui se font, se défont. Rien ne se crée, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Les matériaux vivants se constituent, s'associent, se dissocient.
Mais une autre chose, que l'homme n'aurait pas péché. Oui. Qu'est-ce que ça sert?
Alors, les questions qu'on ne peut pas poser en toute rigueur comme celle-là, en toute rigueur effectivement, il n'y a pas de sens d'essayer de reconstruire l'histoire avec les signes, ça on ne peut pas. Mais sont souvent aussi les plus profondes parce qu'elles font, elles font réfléchir. Elles amènent à reconsidérer ce qui est. Vous voyez ? Il est stupide en soi, si on veut suivre une rigueur entière, de supposer ce qui n'est pas. Parce que ça n'a finalement pas de sens. Si, mais ce n'est pas, ça ne peut pas être.
Dieu ne voulait pas.
Mais d'autre part, c'est l'occasion de réfléchir sur ce qui est. Et ainsi, ces questions, qui en toute rigueur n'ont pas de sens, peuvent avoir quand même une fonction très utile. Voyez. Donc, je crois que votre question peut être très utile, peut nous faire réfléchir très utilement. Moi, je crois que si l'homme n'avait pas péché, il n'aurait aucunement souffert de ce qu'on appelle couramment le mal cosmique. Que les microbes qui existaient, ils ont été créés, ne lui auraient été que bienfaisants. Vous le savez déjà, la majorité des microbes nous est bienfaisante. C'est une minorité. Et pourquoi cette minorité nous fait-elle mal? Parce que nous sommes affaiblis. Nous serions dans le parfait équilibre, nous pourrions en tirer profit. Les microbes nous auraient fait du bien, les volcans, un sixième sens nous aurait averti de toute éruption, nous serions mis à l'abri, il n'y aurait pas eu de problème, nous aurions capté leur énergie, les volcans ont leur utilité aussi dans le système, les rats de marée de même, nul homme n'en aurait souffert. Les bêtes féroces, probablement, obéissaient à une sorte de rayonnement d'autorité psychologique de l'homme, qui semble avoir été aussi donné à Jésus en tant qu'homme sans péché et vainqueur de la tentation dans le désert. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Ces bêtes sauvages. Oui, oui, c'est vrai aussi, oui. Bien que là, il y a eu l'intervention d'un ange en plus. Je pense qu'on peut dire que ces bêtes qui dans les systèmes écologiques raffinés que le Créateur a institués se mangent les unes des autres, auraient toutes obéi à l'autorité de ce vice-roi de la création qu'est l'homme, et donc l'homme n'aurait en aucune manière souffert, mais que c'eût été l'harmonie entière dans sa vie.
Le ciel sera passé par la mort.
Alors, moi je ne suis même pas prêt à dire il serait allé au ciel, parce que je crois que sa terre... Non, il ne mourrait pas, justement. Je crois qu'il n'aurait pas été question qu'il meure. Et il mangeait du fruit de l'arbre de vie. Mais le fait de dire il s'est allé au ciel suggère que dans le plan de la création, Éden, c'était transitoire. C'était une simple étape. Or, rien ne le dit dans le texte. Éden, c'était l'environnement parfait pour cette créature de Dieu. Et Dieu venait lui rendre visite. Il avait communion avec Dieu. Donc, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de nécessité d'une translation au ciel. C'est pour ça que je ne dis pas il serait allé au ciel. Il était en un sens, il était au ciel sur la terre. Mais l'expression n'est pas tout à fait juste, dans la mesure où, dans l'état de la première création, ciel et terre demeuraient séparés. Il n'y avait pas de barrière, mais une distance. Et c'est parce que la nouvelle création nous apporte plus que ce que la création première avait institué, toute bonne qu'elle était, que maintenant nous pouvons parler de ciel sur la terre. La comparaison entre le début de la Genèse et la fin de l'Apocalypse est très, très significative à cet égard. Nous voyons que la Jérusalem céleste descend sur la terre dans l'état final. C'est ça la nouveauté, c'est une Jérusalem céleste qui se trouve sur terre dans l'état final, avec Dieu lui-même et l'agneau servant de soleil à cette ville. C'est en quelque sorte la compénétration du ciel et de la terre qui est donnée dans la nouvelle création, qui reste une distinction puisqu'il est question de nouveaux cieux et de nouvelles terres, mais cette distinction est dans une union que la première création ne connaissait pas, semble-t-il.
Mais ça ne peut pas être, notre terre puisque cette terre sera détruite.
Alors, je crois que nous avons eu l'occasion d'en parler déjà, mais je répète ce qui est ma conclusion personnelle sur ce sujet. Je crois que si on prend tous les textes qui concernent la terre, on doit dire qu'il en est de la terre comme de notre corps. Qu'on peut exprimer les choses de deux manières. On peut dire, notre corps est détruit, nous avons un corps nouveau, marquant surtout la différence, la discontinuité, ou qu'on peut dire... Notre corps est transformé, et cela radicalement, racheté de la servitude, de la corruption qui lui est attachée. Notre corps de résurrection, c'est un corps différent, et Paul souligne les contrastes, infirme, plein de gloire, etc. Mais en même temps, il y a une continuité, c'est notre corps ressuscité, puisqu'il est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. C'est notre corps qui ressuscite. Il y a les deux à la fois. Et c'est pas par hasard que je dis qu'il en est de même pour la terre, parce que je crois que notre corps, c'est notre participation à une terre. Il n'y a pas de sens pour nous d'avoir un corps, sinon comme lien et part à une terre. Alors la terre, c'est la même chose, en un sens. Comme pour notre corps, il s'agit d'une mort, d'une dissolution et d'une recréation, mais aussi d'une transformation. C'est cette terre qui est renouvelée jusque dans son essence, dans la nouvelle création. Alors on peut décrire les choses en soulignant la dissolution, bien, la terre et les éléments embrasés se dissoudront. Alors je crois que ce sera matériel, comme notre nouveau corps sera matériel, oui.
Mais quand il est dit que Dieu sera notre lumière,
oui,
c'est quand même...
Oui.
À ce moment-là, le soleil, qu'est-ce qui vient
là? Oui.
Mais ce sera matériel.
Oui. Alors moi, je me dis que je
Vous avez parlé de Dieu et l'agneau, mais il n'y a pas besoin de signe expiatoire. S'il n'y a plus de péché, Jésus-Christ n'a pas été manifesté, ces conditions-là.
Ah, mais le péché ne continuera pas. Si l'agneau est le flambeau, c'est que...
Ah oui.
Non. Ça, c'est que le privilège de la nouvelle création n'aurait pas eu l'occasion de nous être accordé si l'homme n'avait pas péché au commencement. Oui. Non, mais ça, c'est pas dit. Non. Nous avons aussi parlé, mais c'est malheureusement une mauvaise traduction par, c'est la ponctuation qui est malheureuse dans Apocalypse 13. Mais ce qui est dit dès avant la fondation du monde, c'est l'inscription dans le livre de vie. Ceux qui ont été inscrits dans le livre de l'agneau immolé dès avant la fondation du monde, ça veut dire ceux qui ont été inscrits dès avant la fondation du monde dans le livre de l'agneau immolé. Voyez, c'est juste, il y a juste un verset qui dit ça, mais on se méprend souvent. Et comme il se retrouve au chapitre 18, je crois, je ne sais plus maintenant, mais que la même expression se retrouve dans l'un des chapitres 17, 18 ou 19, sans l'agneau immolé, de l'agneau immolé, mais avec la clause dès avant la fondation du monde rattachée à inscrit dans le livre de vie, on ne peut pas douter que ce soit le sens d'Apocalypse 13, verset 8, je crois.
C'est traduction.
Mais je crois que les... Excusez-moi, vous me permettez de regarder dans la Bible à la colombe? Le secondo, merci. Je vois que vous l'avez, et je vais voir ce qu'a mis la Bible à la colombe, parce que je pense qu'elle a pu mettre la bonne ponctuation. Non, elle n'a pas fait. Bon, alors... Il fallait que je le... Elle laisse l'ambiguïté, vous voyez. Bien sûr, on peut comprendre de la manière que j'estime tout à fait juste en l'occurrence, mais elle n'a pas mis la clause dès avant la fondation du monde après le verbe inscrire, comme je crois qu'il aurait été préférable.
Ça poserait le problème qui serait sans doute énorme de la prédestination.
On y arrive. Oui. Alors,
il y avait aussi une autre question, mais ça, je pense que ça serait trop long. Il y avait une autre question dont vous avez peut-être débattu la dernière fois. Et comment ce mal est-il entré dans le monde alors que Dieu avait tout créé juste et bon? Et voilà, tout était bon.
Oui, alors...
Peut-être en avez-vous parlé la dernière fois?
Non, pas tout à fait. Ce sont, n'est-ce pas, d'immenses sujets. Je suis en train de chercher simplement cette autre référence qui fait la preuve.
13.8.
Oui, 13.8, c'est celle que j'ai citée. Alors je veux l'autre où l'expression de l'agneau immolé n'apparaît pas, mais où on voit donc de manière parfaitement nette que l'expression dès avant la fondation du monde se rapporte à inscrire.
17.8.
C'est 17.8, voilà, très bien, merci beaucoup. Donc là, vous voyez, les habitants de la terre, dont le nom n'a pas été inscrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront à la fin. Donc, il est clair que dans le langage de l'Apocalypse, dès avant la fondation du monde, se rapporte à l'inscription. Alors, cela, bien sûr, concerne l'événement de l'immolation. Je lutte contre un mésusage d'Apocalypse 13, verset 8, parce que je veux garder au caractère temporel de l'événement de la croix tout son sens. Et c'est de nouveau lié au problème de l'éternité. Ceux qui disent « immolé dès avant la fondation du monde », disent, voilà, c'est un événement éternel, qui est un pur présent, qui ne concerne pas avant et après la succession des temps. Vous voyez ? Alors, vous voyez, c'est un abus de ce passage. L'événement a eu lieu un moment avant ce moment de l'an 30 ou 33 de notre ère, il ne s'était pas produit, l'agneau n'avait pas été immolé, il a été à ce moment-là, une fois pour toutes, et il ne le sera plus jamais au siècle des siècles, car c'est cet événement qui décide de tout. Mais une fois qu'on a dit ça, bien sûr, il n'est pas question d'oublier que tout ce qui se produit en son temps précis se produit selon le plan de Dieu qui a été conçu auparavant, et lui, dès avant la fondation du monde. Ça, alors, c'est tout à fait certain, la prédestination à la fois de celui qui devait s'offrir en sacrifice du Seigneur Jésus et de tous ceux qui ont part au salut qu'il a acquis, ça, c'est dès avant la fondation du monde. Cette prédestination. Alors, nous pourrons traiter du sujet de la prédestination sous cet angle-là une autre fois. Hein. Là, ça fait partie des sujets que nous pourrons traiter dans l'avenir, dans notre groupe. Nous l'avons mentionné. Non, mais pour le moment, je souligne que l'événement de la croix, qui est, si vous voulez, programmé dès avant la fondation du monde, d'après un texte tout à fait clair, 1 Pierre 1. 1 Pierre 1 parle de l'agneau sans tache, qui a été prédestiné, disent les traductions, c'est pas tout à fait littéral, c'est préconnu, prédistingué, mais ça veut dire choisi pour cela dès avant la fondation du monde.
Ah, d'ailleurs, c'est peut-être la même chose, c'est peut-être préconnu, oui. Au lieu de prédestiner en parlant des hommes, ce qui m'arrangerait
beaucoup dans mon petit esprit. Oui, oui, non, mais c'est justement ce que je vais essayer de combattre quand nous en parlerons. Voilà. Mais enfin, je signale donc le point, de toute façon, le dès avant la fondation du monde, vous voyez, est associé à l'événement de la croix, mais non pas comme se produisant dès avant la fondation du monde, mais comme dans le plan de Dieu, dès avant la fondation du monde. Et de même pour notre élection, notre choix, d'après Éphésiens 1, en lui nous avons été élus dès avant la fondation du monde. Donc ça, c'est indubitable. Le plan de Dieu inclut tout cela dès avant que cela se produise, dès avant la fondation du monde. Alors, comment dans ce plan de Dieu, le mal a été compris, ça, nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler encore, mais le thème que je ne cesse de souligner, parce que je le crois de plus en plus important, c'est que nous n'avons aucune réponse rationnelle à cela. C'est le mystère. Comment le Dieu souverain permet cette irruption du mal dans sa création toute bonne. Tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'il n'y a aucune excuse pour l'homme, qu'il n'y avait aucune contrainte extérieure qui l'ait fait tomber, c'est pour ça qu'il est sans excuse. C'est en usant des dons que Dieu lui avait donnés, mais d'une manière abusive, que l'homme est tombé. Il n'y a même pas de préparation que l'on puisse voir dans la structure de sa liberté, parce qu'elle était parfaitement bonne, le mal n'avait pas à y surgir. Il a surgi, on constate le fait après coup, et on doit dire, il est sans excuse. Mais on doit dire en même temps, Dieu n'a pas été pris par surprise pour autant, car tout était dans ses plans. Comment le Dieu bon et souverain a-t-il permis cela? C'est le mystère opaque, il n'y a pas de solution, ça j'en suis de plus en plus persuadé, mais nous aurons peut-être l'occasion de le développer encore une autre fois. Alors j'en viens aux questions. Il y a plusieurs questions qui ont été posées, ce qui n'ont pas été traitées. Du caractère matériel de la nouvelle création. Je m'appuie pour l'affirmer tout spécialement sur 1 Corinthiens 15, justement à propos du corps. Si il est clair que le corps de résurrection est matériel, alors il faudra dire que la nouvelle terre aussi est matérielle. On ne peut pas, puisqu'il y a une, non seulement une équivalence, mais un lien de solidarité réelle entre les deux. Or, Paul me semble dire dans sa réponse aux objections, qui porte justement là-dessus, mais comment il peut y avoir un corps, etc., vous ne savez pas qu'il y a beaucoup de sortes diverses de chair. Autre est la chair des poissons, autre la chair des oiseaux, autre, etc. Dieu a une gamme de possibilités.
C'est vrai scientifiquement.
Alors là, les scientifiques confirment. Il y a dans la création déjà telle que nous la voyons, il y a une diversité parmi les corps matériels qui est extrême. Ça montre que Dieu a des possibilités très très nombreuses, et donc nous ne devons pas nous achoper à cette difficulté. Le corps avec lequel nous ressusciterons sera très différent du corps présent, mais ça ne l'empêche pas de pouvoir être matériel, car Dieu, avec de la matière, est capable d'avoir des formules très très diverses. Bon, voilà le raisonnement que l'apôtre Paul développe dans ce morceau. Si le corps n'était pas matériel, le corps de résurrection, il n'aurait pas du tout besoin d'avoir tout cet excursus sur la diversité des corps et des chairs. Et donc, je conclus de ce passage que c'est matériel. Mais, j'ajoute que c'est une organisation de la matière, un usage de la matière tellement différent de l'usage présent, que tenter d'imaginer pour nous est pratiquement impossible. C'est là que je rejoins Monsieur Berger. Je n'ai pas du tout résolu les difficultés en ce qui concerne la lumière. Et moi non plus, je suis bien persuadé que l'Apocalypse nous donne des images et que nous ne pouvons pas prendre cela tout littéralement. Donc tout ce que je peux dire, c'est que c'est une certaine impression qui veut nous être communiquée par le texte pour l'orientation présente de notre vie, mais que nous ne pouvons pas spéculer sur la forme de matière exactement qui sera celle de la nouvelle création. Je suis obligé de dire c'est matériel à cause d'un Corinthiens 15, mais l'X de la transformation des formes actuelles de matière à ces formes futures, ça je n'en ai pas connaissance.
Est-ce qu'on ne peut pas faire un parallèle entre ce futur corps que nous aurions soit identique à celui qu'avait le Seigneur Jésus après sa résurrection?
Si, je crois que ça, il faut le faire.
Où, oui. Effectivement, Thomas a mis son doigt dans le trou, mais dans les blessures, oui. Alors que Jésus passait à travers les mains.
Oui,
donc,
oui.
Il y a quand même une certaine matérialité de
la structure. Ah, puis surtout, structure, parce que pourtant, Thomas, il n'est pas dit qu'il l'ait mis. Hein. Jésus l'a invité à le faire, mais est-ce qu'il l'a fait? Moi, j'ai l'impression qu'il n'a pas osé. Il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Mais il aurait pu le faire, puisque Jésus l'a invité. Mais surtout, Jésus a dit...
Il y avait des, voilà.
Et puis, Jésus a dit ensuite... Un esprit n'a ni corps ni eau comme vous voyez que j'ai. Ni chair ni eau, excusez-moi. Comme vous voyez que j'ai. Voilà. Donc, et nous serons semblables à son corps de résurrection. Ça,
donc,
c'est
visible,
sûr.
Palpable, oui, mais pourtant oui, avec des propriétés.
Oui, avec des propriétés tout à fait différentes.
Et on se reconnaîtra.
Et on se reconnaîtra puisqu'ils ont reconnu le Seigneur aussi. Ils n'ont pas reconnu tout de suite, non? Vous voyez, il y a la fois continuité et discontinuité. Ça apparaît. Et alors, quant à la forme de Dieu tout en tous, je ne pense pas qu'elle suscite une véritable objection à ce point particulier. Car, en un sens, comme le rappelait même M. Hadjé tout à l'heure, Dieu est en tous. Est-ce que je ne remplis pas la terre et les cieux, dit-il. Il est dit de Jésus-Christ glorifié qui remplit toute chose dans Éphésiens chapitre 4. Donc, l'idée d'une plénitude qui remplit tout, est déjà présente pour la première création. Elle ne signifie pas, me semble-t-il, que toute matière est transformée en esprit et que toutes les créatures sont divinisées, pas du tout. Elle signifie que cette présence de Dieu, soutien de la vie, est reconnue par tous.
C'est une connaissance quasi parfaite.
Oui. Parfaite, et en même temps, parce que l'éternité, ça dure, toujours en expansion, comme nous suggérions la dernière fois, justement parce que ce n'est pas un pur présent sans succession, bloqué en quelque sorte, je crois que nous ne cesserons jamais d'apprendre à connaître mieux notre Seigneur. Comme nous resterons des créatures, nous ne serons pas infinis, nous. Donc, pour nous, il y aura expansion perpétuelle. Je crois que c'est la perspective qui peut être affirmée.
Vous en avez peut-être parlé la dernière fois, mais je comprends. Oui, excusez-moi parce que je ne savais pas que c'était si intéressant. Non, je pensais que ça me passerait tellement aussi que ce n'est pas la peine que j'y aille. Mais c'est vrai que je m'en passe aussi.
À moi aussi, hein.
Je veux dire qu'on comprend l'éternité dans l'avenir. Au fond, il y a eu un commencement, il y a un futur, il y a un après. Mais là où j'ai du mal, en tout cas moi, à comprendre l'éternité, avant la création, comment Dieu existait de toute éternité.
Mais ça me paraît bien correspondre à ce que dit l'Ecclésiaste, n'est-ce pas? Donc, ça ne doit pas nous troubler puisque c'est dit dans l'Écriture. Il a mis l'éternité dans leur cœur, bien que l'homme ne puisse pas saisir toute l'œuvre que Dieu fait depuis le commencement jusqu'à la fin. Alors, moi je bute exactement comme toi devant ce commencement qui est impensable. Ce serait aussi impensable d'ailleurs d'avoir un moment où Dieu aurait commencé d'exister et avant rien, que d'avoir à penser cette éternité sans jamais de commencement, avant le commencement de la création, Les deux sont impensables. Ce sont des abîmes où notre regard se perd. Je crois que l'Ecclésiaste nous dit, nous, l'homme ne peut pas. L'homme ne peut pas.
Un jour, on m'a dit ça au plus. On m'a dit, bon, ben, on n'était pas Dieu, mais qui a créé Dieu.
Pardon.
Lorsqu'on parlait de l'éternité de Dieu à Melchizedek, ça veut dire qu'il n'a ni commencement ni fin.
Oui. Oui, mais alors, dans pour Melchizedek, ce n'est qu'une image du sacerdoce de type éternel, le sacerdoce que Jésus-Christ a revêtu. Je pense que ce que l'auteur veut dire dans Hébreux 7, c'est que il est significatif que pour Melchizedek, ni le début de sa vie ni la fin ne soient rapportés, contrairement à ce qui se passe pour Aaron dans les mêmes livres de Moïse, parce que son sacerdoce est d'un autre type. C'est un sacerdoce qui n'est pas limité par le temps, parce qu'il appartient à l'esprit, il n'est pas charnel mais spirituel. Or, c'est par l'esprit que l'homme est appelé à être en communion avec l'éternité divine, à avoir la vie éternelle, et son sacerdoce est ainsi spirituel. Comme ça que je comprends ce chapitre 7 des Hébreux, là, sur lequel j'ai travaillé autrefois pour la thèse que j'avais faite. Et c'est un texte très très important, très riche, mais évidemment difficile.
J'ai une question. Pour ce qui concerne le phénomène de maturité, parce que nous sommes dans la succession du temps, nous pouvons avoir arrive à une maturité. Et aussi un vieillissement qui intervient dès le début. Donc, est-ce que ce serait lié au mal ou est-ce que ce serait dans la création
de Dieu? Il me semble qu'il en est du vieillissement comme de ces autres dissociations des synthèses biologiques dont je parlais tout à l'heure. Il n'y a pas de mal lorsqu'il s'agit de créatures inférieures à l'homme. Elles ont un temps limité. Il y a une courbe. Et pour elle, ce n'est pas un mal. Mais pour l'homme, il y a un mal. Car s'il est solidaire de ses créatures inférieures à lui, et s'il est bâti dans son corps de la même manière, il est aussi appelé à la communion avec Dieu, et cette communion avec Dieu devait permettre un renouvellement, même biologique, sans vieillissement aucun. Je suis assez persuadé qu'on peut dire ça. Oui, oui, si la chute n'avait pas eu lieu. Mais disons, tant que l'homme a vécu en Éden, combien de temps nous ne savons pas, mais je pense quand même que ça a duré un certain temps, tant qu'il a vécu en Éden, il n'a pas connu le phénomène du vieillissement. Manger du fruit de l'arbre de vie, ce que cela signifie dans le récit, je crois, était la cure de rajeunissement perpétuel, en quelque sorte, pour lui. Parce que le vieillissement, c'est déjà le début de la mort, je crois qu'il faut le dire. Si l'homme n'était pas fait pour la mort, comme le dit le texte, il n'était pas fait pour le vieillissement non plus. Il y avait un renouvellement. Et il me semble que, même scientifiquement, on peut dire qu'il n'y a aucune raison, a priori, pour qu'un tel renouvellement ne soit pas possible de l'organisme.
C'est pas contradictoire avec la croissance ?
Non, là. Oui, mais pourquoi instituer cette symétrie ? Il atteint dans sa croissance le stade de l'épanouissement parfait, et puis il y demeure.
Oui, mais il y a des cellules qui sont à la naissance et qui vont se dégrader tout le temps.
Mais pourquoi ne pourraient-elles pas être régénérées, ces cellules, de façon continue ? C'est vrai pour une partie importante de nos cellules, pas pour toutes. Il y en a certaines qui ne le font pas. Mais pourquoi ne pas admettre que dans le plan initial de la création, par la communion avec Dieu, elle devait se renouveler de manière perpétuelle. Moi, je crois que ça n'a rien d'impossible à concevoir.
L'arbre de vie, on en reparle à la fin de l'Apocalypse.
Oui. Bon, apparemment, l'heure est arrivée, donc notre entretien...
Les ailes naturellement très très longtemps, des milliards d'années, parce qu'on parle de milliards d'années, l'air...
Oui, mais l'Éden est peut-être venu après, hein. Ça, c'est... Mais c'est il a peut-être duré très longtemps, peut-être.
Parce que toutes ces vers qui ont duré des milliers d'années, il n'y avait pas l'homme.
Non, il faut lire Monsieur Chenu, semble-t-il.
Il faut lire Monsieur Chenu, cher Chenu.
Et lisez aussi, alors si possible, l'appendice que j'ai aussi écrit où je mentionne Monsieur Chenu.
Une question était posée à une jeune lycéenne chrétienne. Pour toi, à quel moment se passe la préhistoire? Alors, justement, à quel moment se passe la préhistoire?
Alors ça, c'est le point le plus difficile. Monsieur Chaunu a une réponse, et je la commente dans le premier appendice du livre, dans la dernière partie du premier appendice. C'est une question très délicate, mais je ne pense pas que la solution de Monsieur Chaunu soit satisfaisante.
Et pourtant, elle est tellement agréable.
Elle est agréable, et oui, mais justement, elle est un peu trop agréable. C'est une solution de facilité qui ne tient pas compte, à mon avis, de toutes les données des textes. Mais c'est une question débattue, mais là nous n'avons pas le temps de la prendre maintenant, mais j'ai essayé de la traiter dans le livre. Oui, il faudrait que vous ayez lu le livre et qu'au fond nous discutions sur la base de la connaissance de ce que je dis dans le livre. Alors, Chaunu, c'est la violence de Dieu, oui, et mon livre, c'est la révélation des origines, puisqu'il n'y en a qu'un seul.
C'est la notion de la connaissance de sa mort, qui est propre seulement aux humains, par rapport aux êtres.
Mais ça, c'est l'éternité dans le cœur.
Voilà.
Bon, alors, la fois prochaine, nous aborderons le sujet de l'état intermédiaire, c'est-à-dire entre la mort.